Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous, chers auditeurs.
Quand allez-vous Laurent?
Ça va très bien, avec ce beau temps.
Bah, vous n'avez pas trop sué à vélo ou à pied?
Je suis venu à pied tranquillement à la radio.
Ah, dans la joie, la bonne foulée pour se mettre dans le bain et être prêt à... Exactement. Regardez le grand écran depuis son fauteuil.
Exactement. Oui.
Vous, en l'occurrence, on regarde un écran plus petit depuis son canapé. Alors, vous allez nous proposer combien de films à voir à la télé ce soir?
Un écran plat, un canapé, un toit au-dessus de la tête. Et on essaie de sélectionner de bons films pour que vous passiez une bonne soirée tranquillement à la maison. Et j'ai sélectionné 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et il y aura un conseil de lecture parce qu'on peut aussi éteindre tous ces écrans qui nous envahissent.
Eh oui, ça c'est une bonne idée. Avec nous, il est là. Alléluia, oui. Joie, Noël. Toutes ses admiratrices étaient là la semaine dernière.
Quelle star!
Elles étaient tristes, peinées, elles pleuraient. Elles se demandaient ce qui lui était arrivé. Et puis elles l'ont retrouvé ce soir et elles sont heureuses, contentes de lui avoir fait une haie d'honneur. Il n'a pas voulu les embrasser, il est comme ça. Guillaume Sidom, bonsoir.
Eh bien bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laurent, bonsoir Christophe.
Comment allez-vous?
Très bien, merci beaucoup.
Hein, vous allez mieux que la semaine dernière?
Oui.
Ah, tant mieux, tant mieux. Alors, faites-nous rêver.
Oh, un chef-d'œuvre ce soir avec La vie rêvée des anges, entre films singuliers et déroutants à la poésie folle, à retrouver dès à présent sur arte.tv.
Vous semez le trouble dans mon esprit avec La vie rêvée des anges? Mais qu'est-ce que vous citez le titre du film? Est-ce que c'est de ce film dont vous allez parler? Ouh là 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 là, ça devient très compliqué maintenant, vous.
C'est un piège.
C'est un piège. C'est un piège. Ce ne sera pas un piège pour notre homme de loi des séries. Dans son tribunal des séries, Grégory Com va parler de cette série sud-coréenne qu'on peut voir sur Netflix depuis le 25 juillet dernier, à savoir Sur la gâchette. Et il paraît que c'est terrible, c'est terrible. Il va vous en parler avec passion, comme à l'accoutumée. Vous savez qu'il est passionné de la culture de l'Asie du Sud-Est, hein. Donc ce n'est pas surprenant qu'il ait trouvé de quoi dire sur cette série, donc Sur la gâchette, qu'on peut voir sur Netflix. Qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse? Plein de belles choses. En plus de vos rubriques, messieurs, on aura l'affiche de la semaine, puisque l'ouvreuse va la scruter avec vous, Laurent Martin. On causera reprise. Mais alors, ces reprises, ce soir, ce sera un petit peu spécial, parce qu'on ira faire quelques reprises, mais au Fifi Gros. Au Fifi Gros, il y a des reprises. Il y a des films nouveaux. Vous savez qu'il y a une grosse compète avec un film qui va obtenir l'amphore d'or, hein, attribué par le jury. Et puis, il y a aussi l'amphore du peuple, l'amphorette, etc. On ne va pas revenir sur toutes les récompenses qu'on attribue au Fifi Gros. On en a parlé la semaine dernière avec Marc Pasquet, une de ses chevilles ouvrières. Néanmoins, nous, il y a quelques rubriques. Alors tenez-vous bien, ça s'appelle Gros Lard. Gros Lard, L'ART. Joyeux Grolandais. Là aussi, il y a des choses à dire. Et puis, il y aura un hommage à, dont on reparlera aussi, puisqu'il lui rend hommage à Jean-Henri Meunier, vous savez, le réalisateur qu'on aimait beaucoup. Ici, qui avait fait Alona Jacques, Ici la Terre, et qui est parti il y a tout juste un an. Tout juste un an.
Exact.
Logique de lui rendre hommage. Il avait fait quelques belles heures du Fifi Gros. Mmh. Et on parlera de tout ça tout à l'heure. Et puis, évidemment, en fin d'émission, si on y arrive, hein, il y aura les coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, une dernière chose, nous donnerons un coup de fil, et oui, on aime bien donner des coups de téléphone, on espère que ça marche.
Oui, on a bien rebranché le fil cette fois-ci.
On a branché.
Le fil est passé par là.
Exactement, heureusement qu'il était là, avec son couteau suisse. Et nous aurons en ligne Marc Van Mel, le directeur du cinéma ABC, parce qu'il y a la grande rentrée du cinéma ABC la semaine prochaine, lundi 22 septembre à 20h. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h, justement. Bon début de soirée avec nous. Et puis, comme le veut la coutume, commençons par un film. Alors attention, C'est en VO. Regardez bien les sous-titres au bas de votre poste de transmission ou de retransmission.
The answer's no.
I haven't even heard the question yet. Now the truth is, you'd be doing me a real favor. I got all these young colts that need riding. Rimrock here, he's feeling kind of left out.
Poor thing.
He'd be grateful. He'd take real good care with you.
Is this how you're going to make me pay my phone bill?
No, no, ma'am. That part's extra.
Un homme et une femme qui parlent avec des chevaux qui hennissent, qui bruissent autour, qui font qui bruissent. Des chevaux qui bruissent, non, c'est pas tellement...
C'est un cheval qui hennit.
Qui hennit, plutôt, oui, vous avez raison, Laurent. Eh bien, oui, c'est normal, puisque c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oui. Le fameux film de Robert Redford qu'il réalisa en 1998. Un acteur extraordinaire. Un acteur extraordinaire, alors 40 ans de carrière, d'autres disent 6 décennies, alors 6 décennies ça fait pas 40 ans, mais bon, on se mélange un petit peu, toujours est-il que Robert Redford a été sur les grands écrans dès les années 60,
hein, oui,
et jusqu'à il y a peu de temps, hein. Il est à la retraite depuis quelques années maintenant, mais néanmoins, il a même été chez Marvel, hein. Rappelez-vous, Captain America et le soldat de l'hiver, il y est, dans, notamment. Et dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, là, il dialogue avec...
Scarlett Johansson ?
Non, pas du tout.
Il n'y a pas la très jeune Scarlett Johansson dans le film.
Dans le film, oui. Dans le film, oui, mais dans l'extrait, non.
Dans l'extrait, non, pardon.
Dans l'extrait, non. Dans l'extrait, non, il parle avec la mère. Grace McLean, incarnée par Scarlett Johansson, qui avait une douzaine d'années. Sa mère, c'est Annie, et c'est Christine Scott Thomas qui l'interprète. Et là, Tom Booker, que Robert Redford incarne, vient la trouver pour lui proposer de faire un tour à cheval, en lui disant, voilà, j'ai amené un cheval, il faut qu'il trotte, il faut qu'il court, il faut que quelqu'un le monte pour l'habituer. Et d'ailleurs, la première chose qu'elle lui dit, avant qu'il pose la question, vous avez fait attention, elle dit, non, non, il en est hors de question, parce qu'elle se doute, et elle veut pas. Vous savez que c'est une bien belle histoire que raconte ce film-là, cet homme qui murmure à l'oreille des chevaux, qui murmure aussi à l'oreille des hommes, puisqu'il répare les blessures des chevaux, les blessures des hommes, de Grace McLean, qui a eu un accident terrible avec ce cheval, justement. Elle a perdu une jambe et elle a perdu sa meilleure amie qui est morte à cause de cet accident. Et il va falloir tout réparer, et cet homme va tout réparer. Il va même réparer un peu l'âme de la maman. Ça fait beaucoup, mais c'est un très beau film, un film de 98, hein, et un petit mot sur la carrière de Robert Redford, parce que quand même, il est un des acteurs les plus récompensés, notamment par des prix honorifiques en fin de carrière. Et oui, c'est souvent comme ça, mais en tout cas, il les a eus de son vivant, c'est déjà pas mal. Et il a des rôles qui sont cultes. Alors, messieurs, vous en avez en tête, j'imagine ?
Oui, dans Butch Cassidy et le Kid.
Oui, bien sûr, c'était en 69. Oui, le film de George Roy Hill, l'histoire de ces deux braqueurs, de Butch Cassidy et le Sundance Kid, hein, dans sa version originale.
Ils vont mal finir en Bolivie.
Bah, ils braquent, ils ont la fâcheuse habitude de braquer des banques et des trains. Alors, l'Union Pacific en a assez de voir ses convois dévalisés, donc ils vont engager l'agence de détective Pinkerton, la fameuse agence de détective américaine, qui va les poursuivre. Et le film est cette poursuite qui finira en Bolivie.
C'est ça. Mais,
un film sublime. Hein, en tout cas, c'est mon avis.
Ah oui, et à voir.
Il y a donc George Roy Hill, et puis la collaboration avec Sidney Pollack a commencé par Jeremiah Johnson en 1972.
Excellent.
Bon, film magnifique. En 73, nos plus belles années, encore Sidney Pollack.
Les trois jours du Condor,
75. Aussi, bien sûr. Les hommes du président, alors là, c'est Alan Pakula, hein, c'est pas Sidney Pollack.
Avec Dustin Hoffman.
Oui, bien sûr. Out of Africa,
Merle Slip,
ouais, les experts aussi. Et voilà, il a une carrière assez extraordinaire. Hein. Je le disais tout à l'heure à propos de Marvel, puisqu'il est dans un des films. Il joue le rôle d'Alexander Pierce dans la série des Marvel. Et puis, il a 9 longs métrages à son actif, je le disais aussi, dont, notamment Des gens comme les autres, en 1980, avec Donald Sutherland, notamment. Et puis, je me souviens de son premier film, c'était Milagro, The Milagro Binfield War, que j'avais eu je l'avais vu à Cannes. Ouais. Quand
ben, je crois que je l'ai en DVD à la maison et il faudrait vous me donner envie de le revoir. Tiens.
Ouais.
Milagro, oui, en effet.
Et quelle impression de voir Robert Redford arriver à la conférence de presse et salon des ambassadeurs, parce que la salle de conférence de presse du Palais était trop petite. C'était gigantesque. Il y avait 200, 250 journalistes, un tas de télévisions incroyables, au moins une vingtaine. Et pendant les 5 premières minutes, avant que la conférence de presse ne débute, les photographes peuvent prendre des photographies avec les flashs. Eh bien, pendant entre 5 et 10 minutes, c'est comme si la lumière d'un flash était restée allumée pendant toute cette durée. À aucun moment, il n'y a eu une pause. On n'a même pas senti les flashs tellement
il y en avait. C'était les pellicules à l'époque. Hein.
Oui, en plus, c'était les pellicules.
36 pauses, rappelez-vous.
Oui, oui.
Il ne fallait pas se louper, là.
Non, il ne fallait pas se louper. Et puis, il y a donc...
La poursuite impitoyable.
Oui.
Avec Marlon Brando. Avec Marlon
Brando. Oui, ça, c'est un...
Ça, c'est bon. Il s'évade de prison, il revient dans sa ville natale et tout le monde tremble parce qu'on pense qu'il va se venger parce qu'il a été dénoncé.
La chasse à l'homme.
Une chasse à l'homme, oui, exactement.
D'ailleurs, le titre est trompeur.
Hein. Oui, c'est vrai, un peu, ouais.
Et au milieu coule une rivière.
Oui.
Avec un Brad Pitt étincelant.
Dont on reparlera parce qu'il passe ce soir.
Ben oui. Alors justement, on va en parler grâce à vous. Et puis, il y a beaucoup d'hommages qui sont faits. Les télévisions ont bouleversé leur programme. Alors, celles auxquelles on accède gratuitement. Puis, il y a aussi celles auxquelles il faut être abonné ou bien les sites de streaming. Voilà. Toujours est-il qu'entre les télés auxquelles on peut accéder quand on a une box ou qu'on peut... avoir la télé par la fibre, et puis toutes ces chaînes de streaming, on peut pratiquement voir, pas toute la filmographie, mais une grande partie de la filmographie de Robert Redford. C'est vous dire s'il a marqué et combien il est adulé. Puis, il faut dire quand même qu'il a été plus qu'un homme de cinéma, parce qu'il a porté le Festival du cinéma indépendant de Sundance. Hein,
oui, exact.
Connu dans le monde entier maintenant, hein, qui a été lancé en 1978. Hein. Et il a fondé justement le Sundance Institute à but non lucratif en 85 et systématisé la tenue de ce festival en janvier. Et chaque année, il y a donc cette fondation qui récompense un film et il attribue un grand prix. Et puis, il est un activiste engagé dans la cause environnementale.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a su se sortir de son image un peu de sexe symbole, un peu comme Paul Newman, oui, pour aller au-delà et mettre sa filmographie au service de ses engagements politiques.
Et il continuait jusqu'à cette date fatidique du 16 septembre où il s'est endormi dans la nuit pour ne pas se réveiller. Et il avait 89 ans et ça fait quelque chose quand même. Robert Redford, un grand metteur en scène,
le dernier grand acteur américain des années 70.
On écoute un petit brin de la musique de Dave Grusing pour les 3 jours du Condor. Ouais, ça, comme on aime ce jazz-là. Allez, restez confortablement installés. Une autre projection commence tout de suite.
C'est incroyable le peu de choses que je sais sur ce rôle. Ben, j'espère que ça s'éclaircira pendant le tournage. Il suffira d'un bon costume et la bataille sera à moitié gagnée. Perle, Emile Jennings, Kennedy, von Stauffenberg.
Combien votre signal?
Quel mec!
C'est un beau dessin, il plaît beaucoup.
C'était pas à Berlin? Qu'est-ce que ça change? C'est arrivé. Si grand-mère était ici, elle dirait que je pas de ciel. Va te promener. Tokyo, Kyoto, Paris, Londres, Trieste, Berlin.
Là, ce n'est pas la version originale, c'est la version française. Mais comme c'est toujours le même acteur qui doublait cet acteur américain-là, on sait évidemment qui parle dans cet extrait. Et vous allez nous le dire tout de suite, ou presque, Guillaume Sidom.
Eh oui, ce monologue de l'ange déchu pour Les ailes du désir, film du réalisateur allemand Wim Wenders, sorti en 1987. À noter qu'il a été prix de la mise en scène au Festival de Cannes la même année, à l'écran, donc Bruno Ganz, Peter Falk, que vous venez d'entendre, Solveig Domartin et Otto Sander, musique signée Jürgen Knieper, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Une pure merveille de la première à la dernière seconde. Pour Dieu, il n'y a pas de figurant, un film qui fait respirer notre esprit aussi. Ce film est un conte, ou plutôt un bouleversant conte philosophique, un labyrinthe dans lequel quelques anges vivent à Berlin, que personne ne voit, sauf les enfants. Ces anges ont une capacité à lire dans les pensées des habitants de la ville. Ils ont le don, non pas d'empêcher quoi que ce soit, mais d'être bienveillants. C'est donc un film sur la bienveillance humaine, un film d'amour sur la liberté de choisir sa vie et son statut, sans risquer de mourir. C'est pouvoir aussi traverser Berlin-Ouest et Berlin-Est avec toute la légèreté d'un vol dans le ciel. Ce film fantastique mêle à la fois géopolitique, poésie et révèle quelque chose de très sensuel et simple. Vu du haut, tout devient plus clair et paisible.
Mais oui, tout devient plus clair et paisible. Et moi qui étais distrait, j'oubliais de vous dire qu'on construit à partir d'intentions sophistiquées les ailes du désir. Elles sont construites comme ça. Et les ailes du désir s'imposent immédiatement dans l'œuvre de Wim Wenders comme une pièce centrale à la richesse irrécusable.
Et ce film, au-delà de développer un onirisme tout à fait singulier, marque aussi le retour du cinéaste en sa terre natale après un exil transatlantique vécu comme une parenthèse, tourné en une bichromie particulièrement signifiante. Il ressemble à un poème mis en image au chevet de cette ville morcelée qu'est Berlin, devenu un palimpseste vivant, grevé d'histoire et d'ombre. C'est ainsi que Wenders cisèle avec maestria cette fable sur la solitude intrinsèque à la chair. Il met en scène avec brio le désir d'effleurer, ne fût-ce qu'un instant, l'expérience du tangible pour ses protagonistes séraphiques. Il se met alors à rêver avec eux d'un cinéma total, symboliste et méta, qui possède pour unique liant la sacro-sainte poésie. Le film donc s'ouvre sur un œil, l'œil d'un ange qui surplombe et observe Berlin en noir et blanc. L'esthétique de Wenders produit une image somptueuse, digne hommage à l'expressionnisme allemand. Ce regard surplombant est empreint aussi de tendresse. Wenders croit en l'homme, il a foi en ses humains blessés, eux qui cherchent un peu d'affection sur cette terre désolée. Il peint une humanité née des ruines et encore habitée par les stigmates de la guerre. Une humanité qui n'en revient pas d'être toujours debout, même si Berlin demeure la ville au visage barré par un mur. L'histoire donc suit deux anges, Damiel et Cassiel, qui errent dans le Berlin des années 80. Invisibles, ils vont écouter les pensées des gens qui témoignent en eux de leur solitude et de leurs espoirs. Mais Damiel, fasciné par l'expérience humaine, aspire de plus en plus à ressentir les émotions et les sensations terrestres. Son désir se concrétise alors lorsqu'il tombe amoureux de Marion. Et plus tard, Damiel rencontre Peter Falk, un acteur américain qui vient tourner un film dans la capitale allemande. Falk, qui a lui-même été un ange autrefois, devine sa présence. Il l'encourage à franchir le pas vers cette humanité qui l'attire tant. Et suite à cet échange, eh bien, l'ange décide finalement de renoncer à son statut d'immortel. Et dès qu'il devient humain, le film passe alors de noir et blanc à la couleur, symbolisant le passage à la mortalité, symbolisant aussi l'entrée dans le monde des sensations avec le désir de goûter, de sentir, de voir, de toucher par des trouées de lumière et de couleurs. Il efface les frontières chromatiques. Sa caméra fait s'effondrer les espaces clos, pénètre dans les foyers, dans les esprits, les songes, et l'univers se teinte d'onirisme. Il poétise Berlin, il découvre alors la douceur physique après une chute, le goût du café, la chaleur du soleil, et de se plonger dans la ville qu'il contemple depuis des siècles.
Mais les ailes du désir, pardon, n'est pas dénué non plus d'humour.
Oui, à l'aide d'une ingénieuse mise en abîme, Peter Falk donc vient donc et interpréter son personnage de Columbo, ancien ange. Débarqué de la 5e avenue, il doit interpréter le rôle d'un détective en quête d'un disparu dans un film historique et policier qui reconstitue les plaies berlinoises de la Seconde Guerre mondiale. Un film se glisse alors dans le film entre réflexion métaphysique et exploration sensorielle. Le film déploie les ailes de ces anges trop humains sans doute, tellement humains qu'ils goûtent leur sang et le trouvent bon, comprenant peut-être par là même un peu mieux une humanité avide de les faire couler, des anges qui se font rouler en vendant l'armure avec laquelle ils sont tombés, l'armure de leur renaissance, mais jamais l'abandon de leurs ailes n'est vécu comme une déchéance. Au contraire, tout confine à l'appréhension d'un amour sans borne, d'une découverte du cadeau de l'humanité et de l'existence. Et le poète vient fermer le film, le poète qui veut chanter l'épopée de la paix, car Wenders, peut-être plus encore qu'un conte, nous offre un film poème dans lequel les images et les voix opposent leurs refrains au flux du monde. Concevoir une image ne suffit pas, il faut vivre à l'intérieur de cette image. À retrouver donc à tout moment sur arte.tv jusqu'au 30 septembre prochain et en Blu-ray et DVD chez Arte Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Il vous l'avait dit, Guillaume Sidom, c'est Jürgen Knipper qui a composé la bande originale du film Les Ailes du Désir de Wim Wenders. Ça s'appelle Urs Trontal. Et sur cette mélodie crispante, un peu envoûtante, un petit peu les deux à la fois, en tout cas, on retrouve Marc Van Mel qui va nous parler de la réjouissante rentrée du cinéma ABC. Bonsoir, Marc Van Mel. Marc ?
Oui, bonjour.
Ah, j'avais peur de ne pas vous avoir. Ouf.
Ça a grésillé quelques instants, mais je suis en ligne.
Tant mieux. Dites-nous, vous êtes le directeur du cinéma ABC, et le cinéma ABC, eh bien, prépare sa rentrée, et cette rentrée promet d'être éclatante, et en tout cas, faire du bruit, ça c'est sûr.
Ben, elle fait envie, elle est inspirante. Après, faire du bruit, je ne sais pas, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit une jolie rentrée. C'est-à-dire, il y aura un pot à boire, ce qui est toujours assez agréable. Il y aura des bandes-annonces. Et puis, il y aura on a choisi de diffuser en avant-première un film qui s'appelle Nouvelle Vague, qui va nous parler, alors c'est une fiction avec des acteurs d'aujourd'hui, mais qui va nous parler des débuts de la Nouvelle Vague quand Godard tournait à bout de souffle, et avec Belmondo, Melville, les Jensenberg, etc. Et puis plein de films à venir, donc je sais pas si ça sera éclatant, explosif, je sais plus comment vous avez dit, mais il y a de très jolies choses qui arrivent en septembre, et puis en octobre, ce sera un vrai feu d'artifice. Oui.
Non, parce que je pensais à la rentrée de l'année dernière, et elle s'était faite en fanfare. C'est pour ça que j'ai pensé...
Ah, exact.
j'ai pensé à ce côté, joyeux et bruyant.
Oui. Alors, c'est... En tout cas, je pense que c'est une envie qu'on a profondément. Alors, pas forcément de films où tout est beau, tout est merveilleux, mais de films qui nous relient à notre humanité. Je pense que consciemment ou inconsciemment, on sait qu'on vit dans un monde qui est assez angoissant et on a besoin de films bourrés d'humanité, ça clairement, sans être des bénis oui-oui pour autant.
Alors, vous avez parlé du film que vous allez passer en avant-première pour la rentrée de l'ABC, où vous allez parler du programme, mais à l'affiche, vous avez de bien belles choses en ce moment quand même. Aujourd'hui, il y a la Tour de glace de Lucile Hadzi-Halilovic. Pas facile à dire, mais en tout cas, le film est quelque chose de... comment dire, de surprenant.
D'intrigant, de surprenant. Là, on est vraiment sur une proposition de cinéma. C'est un film qui était... quasiment condamné à ne pas sortir à Toulouse. Et avec toutes les réserves que je peux émettre sur le film, c'est un vrai objet de cinéma. Et on se disait que c'était vraiment trop dommage qu'il ne sorte pas à Toulouse. Du coup, on a décidé de le programmer à l'ABC. Alors, c'est typiquement des films, je pense, qui peut ravir certains spectateurs, en exaspérer d'autres, qui laissent pas indifférents. Il y a du cinéma, c'est des prises de risques, c'est pas mal de recherches. Mais au moins, il y a une proposition de cinéma. Et puis, on sent aussi aujourd'hui un joli film que j'adore, qui s'appelle Nino, bourré de sensibilité avec un acteur incroyable. Le pitch est assez simple, en fait. Un jeune homme, tout doucement, va apprendre qu'il est malade. Et c'est comment ça va l'impacter lui, mais tout son environnement. C'est pas du tout larmoyant, pas... C'est pour le coup, là, on est sur les réactions qu'on peut tous avoir et les amis et tout ça, c'est un merveilleux film.
Est-ce que dans ce que vous allez proposer dans les semaines, les mois qui arrivent, les semaines avant cette fin d'année, pour clore le trimestre du début de la saison, est-ce qu'il y a un film que vous affectionnez particulièrement, que vous allez avoir ?
Alors, tout à l'heure, j'en parlais, mais le film qui fait la soirée de rentrée, Nouvelle Vague, moi, j'aime beaucoup parce que je le trouve assez jubilatoire. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui fait du bien, on en sort le sourire aux lèvres, et donc ça, c'est, voilà, moi, je trouve que c'est très bien. Il y a aussi un autre film, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais j'aime beaucoup un film qui s'appelle La Petite Dernière, de Afzia Herzi. Dont on suit le parcours depuis des années. Et là, c'est l'histoire d'une jeune femme de la cité qui, en l'occurrence, est lesbienne et qui va confronter ça avec son envie de garder sa foi musulmane. C'est des vraies questions de vie, de société. C'est sensible, c'est intelligent. L'actrice est formidable. La Petite Dernière de Afzia Herzi. Donc, c'est vraiment très très bien. Et puis après, oui, c'est l'avantage, le cinéma, c'est qu'il est multiple et varié, quoi. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres, et ça, c'est assez génial.
Nouvelle Vague et La Petite Dernière étaient des films qui étaient présentés à Cannes, hein, Nouvelle Vague de Linklater.
Ouais, tout à fait.
Et La Petite Dernière, l'actrice a eu le prix d'interprétation, je crois, si je ne m'abuse.
Ouais, alors je suis assez nul dans me souvenir des prix, mais je pense que oui. Et ce qui était assez curieux, c'est que je l'avais aperçu à la télé, et c'était pas ce qu'on appelle un bon client. Elle avait du mal à parler, alors qu'elle c'est une super actrice et qu'elle joue très très bien. Mais le film est formidable, puis vraiment, qui nous interroge tous sur notre identité, sur comment on peut vivre en société. Non, c'est vraiment très très bien, quoi. Et puis, une Nouvelle Vague, on est plus sur un registre comédie.
Donc, la rentrée, c'est lundi prochain, 22 septembre, à 20h, avec Nouvelle Vague. Et puis, là, on en parlait en début d'émission, Robert Redford est parti et vous proposez dimanche 28 septembre à 10h30 à Out of Africa.
Ouais, peur de rien. Alors, j'avoue que j'étais totalement influencé par ma collègue, Marie-Stéphane, pour ne pas la citer, qui m'a dit non, Out of Africa, c'est trop bien. Et puis, on a tous envie, on rêve de se faire laver les cheveux par Robert Redford.
Ah oui, bien sûr.
Et la scène mythique. Et puis, Meryl Streep. Et puis, j'avais une ferme en Afrique, quoi, Karen Blixen. Alors, c'est des films qui ont marqué. C'est un peu la route de Madison, quoi. C'est de super acteurs, c'est romantique en diable. Marie-Stéphane l'avait revu, elle dit que ça n'a pas vieilli. Donc oui, mais c'est vrai que Redford, d'ailleurs, c'est un monsieur qui disait « Je suis juste un mec comme tout le monde, juste qu'il a les cheveux jaunes, quoi. » Mais puis il avait un engagement militant, écolo, etc. Enfin, je pense que c'était quelqu'un de bien. Puis Sundance, etc. Donc on est ravis, avec un petit clin d'œil, de reproposer ça. Puis ben, je sais, je ne fais que citer que ma collègue, mais c'est bien, elle le mérite. Je sais qu'elle risque d'y retourner avec sa fille, parce que le cinéma, c'est aussi parfois des transmissions de génération. C'est, j'ai aimé un film, tiens, je vais t'amener le voir, qu'est-ce que tu vas en penser? Et puis, c'est toujours un espace de discussion aussi, ben, c'est ce que vous faites dans vos émissions. C'est génial, le cinéma.
Oui, c'est génial, le cinéma, et grâce à vous. Grâce à vous, aussi, et surtout.
Grâce à tout le monde, mais grâce à tous ceux qui le font. Puis, ben, je pense que après, moi, j'adore le cinéma, mais j'adore la musique, la littérature. Je trouve ce qui est bien, ben, ce que vous faites, ce qu'on fait, ce que font les gens en en parlant autour d'eux, c'est quand on est transmetteur, quand on a envie de voir quelque chose de beau et qu'on dit aux gens qu'on aime, allez le voir, vous allez peut-être être un peu différent en sortant du film.
Bon, mais on n'a qu'une chose à faire, conseiller à nos auditeurs de foncer pour tout savoir lundi prochain sur ce qui va se passer à l'ABC. Donc, lundi 22 septembre, à
20h. À 19h30, si vous voulez boire un verre. À 19h30, si vous voulez boire un verre.
Ah oui, alors, c'est important, ça.
Et alors, qu'à faire. C'est aussi un espace de convivialité, le cinéma.
Ben oui, c'est là aussi. Alors, pour vous raccompagner, Marc, John Barry, Out of Africa, on écoute le thème. On ne pouvait pas faire autrement.
Très beau thème. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée, merci encore, Marc.
Et vive le cinéma. Au revoir.
Out of Africa, Sidney Pollack, Meryl Streep, Robert Redford.
Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 1986.
Il est bon de le souligner. Eh bien, on ne va pas changer de musique pour regarder et passer au crible l'affiche de la semaine avec Louvroz et vous, surtout Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, Les Tourmentés, le nouveau film de Luca Bellevaux avec Nils Scheder, Ramzi Bedia et Lim Pam. Que vaut la vie d'un homme, messieurs? Vaste question, d'un homme sans rien, d'un homme comme Skender, un ancien légionnaire qui le découvrira bien assez tôt. Et puis d'un autre côté, il y a une certaine madame, une veuve fortunée et passionnée de chasse qui s'ennuie. Elle charge alors son majordome de lui trouver un candidat pour une chasse à l'homme moyennant un très juteux salaire. Skender est le gibier idéal, mais rien ne se passera comme prévu. Alors, pas besoin d'avoir lu le premier roman du réalisateur Lucas Bellevaux, qui adapte ici lui-même son propre livre, pour vite comprendre qu'on est face à une variation du fameux film Les Chasses du comte Zaroff, sorti en 1932, réalisé par Ernest Schotzack et Irving Pichel. La commanditaire, une prédatrice accomplie, veut savoir si elle aura le courage de tuer un homme. Et de son côté, Skander, lui, il entend assurer le confort matériel de son ex-femme et de ses fils. Le thème du gibier humain a été joué sur tous les temps dans l'histoire du cinéma, de la proie nue au chasse à l'homme de John Woo. Mais Lucas Bellevaux ne s'aventure pas ici sur le terrain de l'action. La promesse du survival est une fausse piste. Il préfère explorer la question du pacte sous ses angles psychologiques, politiques, philosophiques, s'interroger sur la brutalisation de la société, sur le rôle de l'argent dans la recherche du bonheur, sur les traumas causés par la guerre. Lucas Bellevaux le dit dans les interviews. Je cite, « Raconter une chasse à l'homme stricto sensu ne m'intéressait que moyennement. C'est un genre en soi, la chasse à l'homme. Dès qu'un type s'échappe de prison et que les policiers lui courent après, c'est une chasse à l'homme. L'intérêt du genre, quel qu'il soit, c'est qu'il offre un cadre et qu'à l'intérieur de ce cadre, tout est permis. C'est comme une improvisation de jazz. Lucas Bellevaux sonde donc l'intériorité de ses personnages dans une mise en scène élégante et triste, comme endeuillé, ponctué de projections mentales et de beaux flashbacks mutiques. Cette approche cérébrale est parfois un peu trop distanciée jusque dans l'interprétation, mais elle a quand même le mérite d'aborder un sujet classique de façon originale. Petite revue de presse sur ce film. Ce thriller psychologique, L'Arme et Habité, interroge avec force la valeur d'une vie humaine et la possibilité d'une rédemption, selon les fiches du cinéma. Un pacte faustien, selon Lacroix. Gros bémol pour le JDD, au bout du compte, c'est l'ennui qui gagne dans ce film. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Dalloway de Yann Gozlan au Vieux Muret. C'est l'histoire de Clarisse, une romancière qui trouve une assistance virtuelle, mais cette tire va prendre de plus en plus de place dans sa vie. La Tour de Glace, vous en parliez, Louis-Marie, de Lucile Hadzi Halilovic. On peut le voir donc à l'ABC Toulouse, un film avec Marion Cotillard. On peut voir Nino aussi, de Pauline Loquès, au Grand Palais à Cahors et à l'ABC. On peut voir L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme de Pierre Richard au CGR Tarbes et à Blagnac. On peut voir Oui de Nadav Lapide à l'Utopia Tournefeuille, histoire d'un musicien juif de jazz qui est chargé de mettre en musique un nouvel hymne. On peut voir aussi Regarde d'Emmanuel Poulain-Arnaud au Kinépolis à Fenouillé avec Danny Boone. On peut voir L'intérêt d'Adam de Laura Wendel au Régent Saint-Gaudens ou à l'Américain Cosmographe. C'est un film avec Léa Drucker. On peut voir Left-Handed Girl de Shi Chung Su au CGR Le Paris à Montauban ou à l'American Cosmographe à Toulouse. On peut voir Mary Henning, d'animation de Décisant de Marcel Barelli. Non, c'est pas un joueur de foot, c'est un réalisateur. À l'ABC Toulouse. Et pour finir, un film qui plaira à notre Grégory National, c'est Demon Slayer, La Forteresse Infinie, un film d'Haruo Sotozaki. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long.
Raindrops keep falling on my head. B.G. Thomas, et dans quel film on entend cette chanson extraordinaire? Et dans Butch Cassidy et le Kid, avec cette fameuse scène de vélo où Butch Cassidy porte sur le guidon Etta Place, incarné par Katharine Ross. Extraordinaire. Butch Cassidy et le Kid, c'est Newman, c'est Redford, et c'est cette chanson. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that. On laisse la pluie nous tomber, sur la tête, parce qu'on n'a pas de parapluie, parce qu'on fait du vélo, nous aussi, et on retrouve notre homme de loi des séries qui va nous parler de sur la gâchette.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vais vous parler aujourd'hui d'une série télévisée, qui est une série télévisée coréenne, que vous pourrez retrouver en accès direct sur Netflix, et qui s'appelle Trigger, en version américaine, parce que j'avais envie de vous faire entendre mon doux accent américain, mais elle s'appelle en français Sur la gâchette, et je vous la conseille fortement. Alors, vous savez à quel point je suis un grand fan du cinéma, mais aussi du monde des séries télé, produites par la Corée du Sud, et même maintenant des animés, et des ce qu'on appelle les manhwas, qui sont l'équivalent des mangas, mais en Corée. Donc, je suis assez fan, et j'en regarde beaucoup. Certaines sont très bonnes, d'autres moins bonnes, mais Sur la gâchette a attiré particulièrement mon attention parce qu'elle est l'incarnation même du savoir-faire coréen en termes de fiction. Quel est le synopsis ? En fait, on suit l'augmentation de la distribution illégale d'armes en Corée et évidemment de la criminalité armée qui y est liée. C'est très intéressant parce qu'en Corée, il y a une législation très très stricte sur le marché des armes, encore plus qu'en France, encore plus que dans beaucoup d'autres pays. C'est une des plus strictes au monde. Et donc, en fait, la question que pose la série, c'est comment réagirait la société coréenne, qui peut être très stressée, très encadrée, face à un afflux d'armes, notamment données. Et en fait, on va suivre l'enquête policière sur pourquoi ces armes sont données, qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qui risque de se passer. Donc ça, là-dessus, on est sur vraiment à la fois une fresque sociétale, mais aussi une enquête policière de très 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 haut niveau, avec des acteurs exceptionnels, je le redis, hein, le niveau d'acting en Corée du Sud est de niveau de classe mondiale. Encore une fois, en France, on pourrait s'y inspirer, mais pas que sur ça, on va y revenir. Le point qui est important, c'est que quand j'ai regardé cette série la première fois, j'ai été un peu décontenancé par le premier épisode, je ne vais pas vous mentir, parce que ça met en place beaucoup de choses. Et je me suis dit, oula, mais en fait, on part sur quoi ? C'est juste les armes et ce que ça fait ? Non, dès le deuxième épisode, donc je vous conseille de passer ce premier épisode, qui est très bien, mais qui est très dense, pour avoir dès le deuxième la mise en place de l'enquête. Et l'enquête est vraiment extrêmement bien menée. Les scènes d'action qui arrivent, qui ne sont pas rares, mais qui ne sont pas non plus à profusion, quand elles arrivent, elles sont toutes impactantes et elles ont toutes de l'enjeu. Et donc, réellement, on rentre en fait dans ce thriller coréen et on a envie d'avoir la conclusion finale de pourquoi ces armes sont distribuées et quels sont les protagonistes derrière tout ça. Là où c'est très très fort, c'est qu'on a à la fois une critique de la société coréenne en général, mais aussi une analyse complète des problématiques que rencontre cette société. Donc à la fois une vision globale et une vision personne par personne. On va aborder la solitude, on va aborder la précarité, on va aborder aussi le harcèlement scolaire. D'ailleurs, les deux épisodes sur le harcèlement scolaire sont très durs, mais très 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 forts dans ce qu'ils ont à nous dire, et ce sont des masterclass sur le sujet. Donc voilà, je vais être clair, je vais pas tourner autour du pot, évidemment que je vous conseille cette série Sur la gâchette, je vous la conseille énormément, passez juste le premier épisode et vous allez être emporté, vous allez pas pouvoir lâcher. Ce n'est pas une mini-série, donc il y aura une saison 2. C'est très bien parce que le sujet est vaste et il me tarde de voir comment ils vont traiter la suite de l'intrigue, je vous spoil pas plus. J'ai juste un regret, c'est que honnêtement, en France, on aurait les moyens de faire aussi bien, mais on n'y arrive pas, que ça soit au niveau de la réalisation, que ça soit au niveau de l'acting ou au niveau de l'analyse de la société. Quand nous, on fait une série sociétale, c'est les problèmes familiaux, machin, tromper machin, hein, comment on fait, on reste toujours là. Alors que là, on a une série sérieuse, triste, dramatique souvent et mélancolique, mais qui n'oublie pas non plus de vous divertir dans la façon de raconter. C'est vraiment une masterclass, c'est une de mes séries coup de cœur de cette année. Sur la gâchette sur Netflix, je vous le recommande fortement.
Vous l'avez compris, Sur la gâchette, c'est la série qu'il faut regarder. Elle est adoubée par notre homme de loi des séries, Grégory Com. Thank you. musique, c'est Serge Gainsbourg qui a écrit cette musique. Est-ce que vous le croirez? Bah oui, c'est Serge Gainsbourg qui l'a écrite. Au Beautiful America, pour ce film alors extraordinaire, sorti en 1969, Mr. Freedom. Alors là, c'est un truc complètement délirant que ce film-là. Mr. Freedom, c'est un super-héros américain qui vient sauver la France de Red China et de Magic Man. Vous avez compris, hein, Red China Man, c'est le jaune, Magic Man, c'est le rouge. Hein. Et quand je vous dirai que Magic Man est incarné par Philippe Noiret, vous n'en reviendrez pas. Mais il n'y a pas que ça au générique de ce film. Il y a un acteur américain, bien sûr, qui joue le rôle de Mr. Freedom, un super-héros, c'est John Abbey. Mais il y a Delphine Seyrig, il y a Donald Pleasance, Jean-Claude Drouot, Gainsbourg, je l'ai dit, Rufus, Catherine Rouvel, Samy Frey, Monique Chaumette, Yves Montand, Daniel Cohn-Bendit dans son propre rôle, Jean-Luc Bidault, Simone Signoret, et la liste est longue encore, un film complètement barré sur cette sur ce super-héros qui vient sauver la France et en fait va la détruire complètement, une charge redoutable et terrible sur la politique américaine. William Klein n'y est pas allé par le dos de la cuillère, et c'est très fort. William Klein, qui était surtout connu comme photographe, mais il avait fait aussi des fictions satiriques, et le Fifi Gros lui rend hommage dans Gros Lard. Il faut pas manquer ce film-là, c'est superbe, c'est Gros Manche, c'est-à-dire dimanche prochain à 18h au Pâté Wilson. Sinon, vous pourrez voir un autre film de William Klein, Qui êtes-vous, Polly McGoo, ça c'est pour vendredi 19 à 17h15. Ne ratez pas Mr. Freedom, ça vaut le détour. Delphine Seyrig, qui ne jouait que dans des films, dans des cinémas d'auteurs, jouait une pin-up, elle le fait remarquablement bien, parce qu'elle avait le physique qui s'y prête, mais elle est extraordinaire aussi. Ne manquez pas ça. Et Magic Man, Philippe Noiret, là aussi, pas beaucoup de scènes, mais ça y va, c'est du lourd. Autre chose, toujours au Fifi Gros, on se dépêche parce que sinon on va manquer de temps. Pour vous, Laurent, il y a dans le cadre des 130 ans de Gaumont, Gaumont l'étrange anthologie et l'étrange anthologie bis aussi. C'est-à-dire que fou, surréaliste, c'est une collection d'archives des actualités filmées de Gaumont. Et il y a une galerie de doudingues avec toujours des voix off au ton parfois indigné pour apporter un peu de morale à tout ça. Alors il y a des fakirs, des manieurs de serpents, des danseurs disco, des chèvres à deux têtes, des homotomates, des collectionneurs de costumes de Mickey. Voilà ce qu'on découvrait dans ces films, dans les actualités Gaumont. C'est assez extraordinaire. Donc, au Pâté Wilson, l'anthologie bis, c'est vendredi 19 à 14h. Et puis, l'étrange anthologie, le premier volet, c'est demain, jeudi 18 à 21h. Et enfin, ne pas manquer l'hommage à Jean-Henri Meunier. C'est pour vendredi à 21h. À l'American Cosmographe, La vie comme elle va, à Najac. Hein, et il y aura des participants à ce film documentaire magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer le voir. Hein, et puis il y aura des gens pour parler du film. Il y aura des gens qui sont dans le film. Et puis il y aura un petit peu Jean-Henri Meunier. Allez, on s'écoute un tout petit brin de la chanson pour le film signé Henri Padovani. La vie comme elle va.
La vie comme elle va. La vie comme elle vient, la vie comme un va-et-vient, la vie des hauts et bas, la vie des gentils animaux, la vie du genre humain, ici Najac. À vous la terre.
Najak, ici Najak, à vous la terre, on y est. On nous parle. En tout cas, vous irez au Fifigro, fifigro.com. Il n'y a pas que ces films de reprise, il y a tous les films nouveaux en avant-première. Fifigro, fifigro.com, je le disais à l'instant, pour trouver tout le programme, et c'est jusqu'au 21 septembre. Et puis, il y a le Gros Village, tous les soirs, où il se passe plein de belles choses, au quai Vigri. Tout ça, c'est à Toulouse. Voilà pour les reprises sur le grand écran du Fifigro. Sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Et au milieu coule une rivière de Robert Redford avec Brad Pitt, Montana, 20e siècle. Deux frères amoureux de la pêche à la mouche vont prendre des chemins différents, servis par une superbe photographie, un film sensible et poignant sur l'amour fraternel, doublé d'un bel hymne à la nature. Et à 22h30, prévoir un documentaire sur Robert Redford, signé Pierre-Henri Salfati, où l'on découvre que l'acteur, comme on l'a dit tout à l'heure, acteur, réalisateur, producteur, a su dépasser son image de sex symbol pour mettre sa riche filmographie au service de ses engagements politiques. Jeudi sur France 4 à 21h, ce sera Nos Frangins de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb et Raphaël Personnaz. Décembre 1986, le corps de Malik Houssekine arrive à l'Institut médico-légal de Paris. Une enquête va commencer, malgré des maladresses dans la réalisation. Un film aussi sobre que poignant. Et puis vendredi, France 5, ne pas louper, à 21h, Jeremiah Johnson, film de 1972 de Sidney Pollack avec Robert Redford. En 1850, Jeremiah Johnson, un ancien soldat amoureux des grands espaces, renonce à la civilisation, il s'achète un cheval et un fusil et part dans les Rocheuses où il devient trappeur. Voilà une fable écologique et humaniste portée par le magistral Robert Redford. Une belle leçon de vie et peut-être l'un des meilleurs rôles de Robert Redford. Samedi, France 4, 21h, premier contact de Denis Villeneuve avec Jeremy Renner et Amy Adams. Des vaisseaux extraterrestres apparaissent dans le ciel terrestre. Alors, comment établir le contact? Réflexion et émotion se croisent dans ce film de science-fiction ambitieux et remarquablement interprété. Et puis dimanche, Arte, 21h, un petit tour de magie, messieurs, ça, avec Le Prestige de Christopher Nolan, d'après un roman de Christopher Priest que je vous recommande, avec Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson et la présence de David Bowie. Nous sommes à Londres à la fin du 19e siècle. La magie est à la fois un art et un terrain de rivalité acharnée. Et Alfred Borden et Robert Hunger, deux illusionnistes prometteurs, sont unis par leur passion pour la prestidigitation, mais leur amitié se transforme en haine après une tragédie. Flirtant avec le fantastique, un thriller haletant et somptueux sur l'art de l'illusion. Le conseil de lecture, ce sera Cinéphilix. Non, c'est pas un personnage de série, ça, c'est le titre du livre. C'est une histoire du cinéma en bande dessinée. Voilà une bonne idée d'Olivier Cotte et de Marie-Sophie Moreau. Une BD foisonnante où vous côtoierez tous ceux et celles qui ont fait les grandes heures du cinéma, hein, pour le plus grand plaisir des spectateurs, de Alfred Hitchcock à Tim Burton, en passant par Agnès Varda. Voilà, bande dessinée que vous retrouvez pour 21€ aux éditions du Nautenay. Guillaume, je vous l'offre, prenez-en soin, ne l'abîmez pas.
Merci beaucoup, Laurent.
Et voilà, c'est tout pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Woodcock, qu'est-ce qui t'a pris de faire cette chose ridicule?
C'est-à-dire, vous avez fait sauter l'autre si facilement que j'ai cru bon de renforcer celui-là.
Allez, donne-moi ça. Et va en chercher d'autres. Tout ce que tu pourras. Je pense que ça devrait suffire.
Est-ce que tu crois qu'il y avait assez de dynamite ?
Est-ce que tu crois qu'il y avait assez de dynamite? Qui pose cette question? C'est facile. C'est Sundance Kid qui la pose à Paul Newman, puisque oui. Au début de l'extrait, Newman est dans, donc Butch Cassidy, est dans le wagon d'un train dans lequel il y a un coffre et il parle à celui qui s'occupe du coffre. Il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Bah, et là, vous l'avez entendu. Il dit, bah, on l'a fait un peu plus solide la dernière fois. Alors, il met beaucoup plus de dynamite, mais là, pour le coup, la scène est assez drôle parce que le film ne manque pas d'humour. Il casse tout, le coffre-fort bien sûr, le wagon aussi, et les billets tombent en pluie au-dessus d'eux et ils sont propulsés avant de recevoir tous ces billets, ils sont propulsés au loin. Donc oui, il y avait peut-être assez de dynamite.
Ouais, la dose était trop forte. Hein.
On refait un tour de vélo.
Avec plaisir.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those
drops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way.
Allez, messieurs, sur BJ Thomas, on est sur le porte-bagages. Guillaume, vous, Laurent, vous pédalez et moi je suis sur le guidon.
Oui.
Vous avez du mal. C'est compliqué tout ça. Ah, là, faut bon, allez, allez, puisque vous pédalez, c'est vous qui commencez.
Allez, super. Et, alors pour moi, ça sera les Tourmentés, la Tour de Glace et le Fifigro jusqu'au 21 septembre.
Les Tourmentés, Nino, oui. Vivement la rentrée de l'ABC, c'est lundi 22 septembre à 20h. Si vous voulez boire un verre avec modération, c'est à 19h30. Évidemment, le Fifigro jusqu'au dimanche 21 septembre prochain, toute la programmation fifigro.com.
Eh bien, pour moi, ce sera le Fifigro, comme vous, évidemment, jusqu'au 21 septembre. Il y a plein de belles choses à voir, plein de promesses de cinéma et des bien belles choses, bien drôles, bien tordues, bien comiques, bien corrosives. Les Tourmentés de Lucas Bellevaux et Nino de Pauline Loquès et bien sûr la rentrée de l'ABC lundi 22 septembre à 20h pour le film, 19h30 pour l'apéro. Merci, messieurs.
Bonne semaine à tous, à mercredi.
Vous êtes pas trop essoufflés, finalement. Allez, on va retrouver justement Nathalie Cardon grâce à cette bicyclette qui sera là dès 20h. Restez fidèles à la présence, à la semaine prochaine.
Bonjour, c'est Jérôme Debardis. Chaque semaine, plongez dans l'univers des garanties et des protections qui influencent notre vie quotidienne. Je vous